Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1996 chez Odile Jacob, L'enfant aux deux langues est un essai de linguistique et de réflexion éducative consacré au bilinguisme chez les enfants. Claude Agège, linguiste connu pour ses travaux sur la diversité des langues et le multilinguisme, y examine les conditions qui rendent possible une maîtrise réelle de deux langues. Le livre se situe à la rencontre de la recherche sur acquisition linguistique, des interrogations parentales et du débat scolaire français. Son point de départ est une contestation du fatalisme selon lequel les Français seraient peu doués pour les langues. Pour Agège, la capacité bilingue dépend moins de dispositions nationales que de conditions concrètes de contact, de continuité et de valorisation des langues. Il aborde notamment le moment de l'introduction de la seconde langue, les différences entre apprentissage précoce et apprentissage adulte, les effets intellectuels possibles du bilinguisme et les risques de perte de la langue première. Son ambition dépasse donc le conseil familial et interroge les fondements d'une école réellement ouverte au plurilinguisme. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le bilinguisme comme résultat de conditions organisées plutôt que de dons naturels. Le livre refuse de traiter aptitude aux langues comme un talent rare ou comme une caractéristique collective fixe. Cette position est importante dans un contexte français où apprentissage des langues a souvent été associé à un sentiment de difficulté ou de retard. Agège déplace le problème vers les conditions de acquisition. Devenir bilingue suppose une présence suffisamment régulière de chaque langue, des occasions réelles de les utiliser et un environnement qui ne dévalorise pas une langue au profit de l'autre. Cette perspective évite deux erreurs opposées. La première consiste à croire que le seul fait de commencer tôt garantit automatiquement le bilinguisme. La seconde revient à conclure que les difficultés scolaires prouvent une incapacité individuelle. Le bilinguisme est présenté comme une compétence construite dans la durée, et non comme une étiquette obtenue après quelques cours. Pour les parents comme pour les éducateurs, la conséquence est concrète, il faut penser la qualité, la continuité et la fonction sociale des contacts linguistiques. Une langue cantonnée à des exercices isolés ne joue pas le même rôle qu'une langue qui sert à comprendre, échanger et participer à une vie relationnelle. Le livre inscrit ainsi la question linguistique dans une responsabilité éducative et institutionnelle plutôt que dans une simple appréciation de performance personnelle. Deuxièmement, le moment de l'introduction d'une seconde langue et la spécificité d'enfance. Une interrogation centrale concerne l'âge auquel une seconde langue devrait entrer dans la vie de l'enfant. Agège mène en regard apprentissage au début de la vie et apprentissage durant l'âge adulte, sans réduire la question à une règle mécanique. Enfance constitue une période particulièrement favorable parce que les langues peuvent être intégrées à des usages ordinaires, à écoute répétée et à des interactions dont le sens précède souvent analyse consciente des règles. Cette modalité diffère de l'apprentissage adulte, plus souvent organisé autour de enseignements explicites, de mémorisation et de comparaison avec une langue déjà solidement installée. La distinction ne signifie pas que adulte serait incapable de progresser ou que enfant apprendrait sans condition. Elle invite plutôt à reconnaître que les voies de acquisition, les attentes réalistes et les formes de soutien ne sont pas identiques selon âge. Le livre aide donc à éviter une vision spectaculaire de précocité linguistique. Introduire une langue tôt a du sens si cette introduction ouvre un rapport durable à cette langue. Sans régularité ni contexte de communication, le bénéfice attendu peut rester limité. La question éducative pertinente devient alors moins celle de âge idéal abstrait que celle du dispositif concret qui parle la langue, dans quelles activités, avec quelle fréquence et avec quelle continuité au fil de la scolarité. Troisièmement, les facultés intellectuelles associées à la pratique de deux langues. Agège examine les facultés intellectuelles dont le développement peut être facilité par le bilinguisme. Le propos mérite une lecture précise, il ne transforme pas le fait de parler deux langues en garantie universelle de supériorité cognitive. Il attire plutôt attention sur l'expérience particulière que représente le passage régulier entre deux systèmes linguistiques. Un enfant bilingue apprend qu'une même réalité peut recevoir des formes différentes, que les habitudes de expression ne sont pas uniques et que interlocuteur, situation et langue choisie modifient la communication. Cette expérience peut favoriser une conscience plus explicite du langage comme système, ainsi qu'une souplesse dans l'attention portée aux formes et aux usages. Le bénéfice intellectuel envisagé est donc lié à la pratique effective de la diversité, non à l'addition purement administrative de deux matières scolaires. Cette analyse possède aussi une portée culturelle. Deux langues donnent accès à des univers de transmission, à des rapports différents entre mots et contextes et à plusieurs espaces de relations. Le bilinguisme devient alors un apprentissage de la pluralité plutôt qu'une simple technique utile. Pour école, cette idée implique que les langues ne devraient pas être traitées uniquement comme instruments de sélection. Elles peuvent former une éducation à la variation, à écoute et à la compréhension de systèmes culturels distincts. Quatrièmement, la perte de la langue première comme enjeu de continuité familiale et sociale, le livre ne présente pas le bilinguisme comme une accumulation toujours stable. Il aborde aussi les situations de oubli de une des langues, notamment de la langue maternelle. Cette question est essentielle pour comprendre que l'équilibre entre deux langues dépend de leurs usages respectifs. Lorsqu'une langue domine l'école, les médias et les relations publiques, tandis que autre reste limitée à des moments rares ou à certains membres de la famille. La langue moins présente peut perdre sa fonction active. Une telle évolution ne relève pas nécessairement d'un choix conscient de l'enfant. Elle peut provenir de pression sociale, de désir de intégration ou de absence de lieu où cette langue est reconnue et nécessaire. En soulignant ce risque, Agege élargit le débat au maintien des liens familiaux et à la transmission entre générations. La langue première ne se réduit pas à un code de communication, elle peut porter des souvenirs, des habitudes relationnelles et un accès direct à une partie de l'histoire familiale. Prévenir son effacement exige donc davantage qu'une valorisation symbolique. Il faut préserver des situations où elle demeure vivante, comprise et employée. Cette attention à la fragilité des langues dans une biographie individuelle rejoint les préoccupations plus larges de Hauteur pour la diversité linguistique. Elle rappelle que le bilinguisme durable suppose une protection active de chacune des langues en présence. En dernier lieu, vers une école conçue pour former durablement des élèves bilingues au-delà des situations familiales, Agege inscrit son analyse dans une réflexion sur école. Il constate que l'intérêt pour le bilinguisme en France reste récent et que manque un projet général à la hauteur de l'enjeu. La portée du livre est donc institutionnelle, il ne demande pas seulement comment aider quelques enfants, mais comment concevoir une école capable de faire des langues un élément structurant de la formation. Une telle orientation implique de dépasser un enseignement réduit à des horaires fragmentés et à des savoirs détachés de osage. Pour installer une compétence bilingue, il faut envisager la continuité des apprentissages, la place de l'exposition aux langues et les conditions dans lesquelles elles deviennent des moyens ordinaires de comprendre et de communiquer. Le texte ne se confond pas avec un programme technique détaillé de réforme scolaire. Sa contribution consiste plutôt à fournir des principes pour penser une école de type nouveau, adaptée à une société où plusieurs langues coexistent et où la mobilité culturelle prend de l'importance. Cette perspective distingue bilinguisme élitaire, réservé à quelques parcours favorisés, d'un objectif éducatif plus largement accessible. Elle oblige aussi à considérer les langues déjà parlées par les élèves comme des ressources, non comme des obstacles. Le livre articule ainsi formation linguistique, égalité éducative et reconnaissance de la diversité culturelle. En conclusion, l'enfant aux deux langues intéressera en premier lieu les parents qui cherchent des repères sérieux sur introduction et le maintien de deux langues dans la vie d'un enfant. Il sera également utile aux enseignants, responsables scolaires et étudiants en sciences du langage désireux de replacer les choix pédagogiques dans une réflexion plus large sur la diversité linguistique. Son bénéfice pratique réside moins dans une recette immédiate que dans une grille de questions concrètes : quelle continuité de exposition est assurée ? Quels usages réels chaque langue possède ? Comment éviter qu'une langue familiale soit marginalisée ? Et quel rôle l'école peut-elle jouer ? Sur le plan intellectuel, le livre combat les explications fatalistes fondées sur le don supposé ou sur une identité nationale prétendument peu linguistique. Il montre que le bilinguisme doit être envisagé comme une construction sociale, éducative et relationnelle. Cette approche le distingue de nombreux guides centrés seulement sur des méthodes domestiques ou sur les avantages supposés de précocité. Agege relie les expériences de enfants à une réflexion sur les institutions et sur la place des langues dans la société française. Bien que publié en 1996, le livre conserve une valeur de cadrage pour comprendre les tensions entre langues de scolarisation, langues familiales et ambitions plurilingues. Sa singularité tient à alliance entre expertise linguistique, attention aux interrogations parentales et projets de transformation éducative. Si vous souhaitez soutenir Claude Agege, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.